Kate, bonsoir.
Salut, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. Je fais juste une petite parenthèse.
Je vais me calmer parce que je vais m'emporter.
Une petite parenthèse sur Mathieu Barzal. Tu sais que les Islanders avaient échangé Griffin Reinhardt pour aller chercher ce choix-là.
Oui.
Puis évidemment, les gens, quand tu regardes les repêchages, là, les gens qui, comme moi, peuvent passer une journée sur HockeyDB à regarder toutes sortes de statistiques, les Browns avaient trois choix consécutifs.
Exact.
Puis bon, évidemment, il y a DeBrusk dans l'eau qui, je pense, va devenir un bon joueur. Mais les Islanders avaient été chercher ce choix-là pour Griffin Reinhardt qui... Honnêtement, il faut commencer à douter un peu si ce gars-là va jouer sur une base régulière dans la Ligue nationale.
Oui.
Mais c'est assez incroyable comme transaction. Puis c'est assez incroyable que le gars se soit rendu jusqu'au 16e rang quand tu vois ce qu'il peut accomplir aujourd'hui. Mais ça, c'est les bons et les mauvais côtés du repêchage. Des fois, c'est un peu difficile de savoir si le gars va réussir à s'épanouir. Mais en tout cas, dans le temps qu'il jouait avec les Thunderbirds à Seattle, je me rappelle qu'il était très bon, Mathew Barzal.
À 16 et 17 ans, il a fait à peu près un point par match. Mais les deux années suivantes, comme il a manqué des matchs avec le Mondial Junior, il a fait des saisons comme de 88 points en 41 matchs ou en 47 matchs. Les deux dernières, c'était vraiment impressionnant. Mais c'est drôle que tu me parles des trois choix des Bruins parce que j'avais fait la recherche hier, puis j'en ai parlé dans le retour avec Eve-Marie hier après-midi. Il y a quatre joueurs seulement du repêchage de 2015 qui n'ont toujours pas joué un match dans la Ligue nationale, les choix de première ronde, j'entends. Quatre joueurs parmi tous les joueurs sélectionnés en 2015 en première ronde. Des quatre joueurs, il y en a deux sélectionnés par les Bruins. Jake DeBrusk joue et il est très bon. Il est beaucoup meilleur que je pensais. Il est d'ailleurs beaucoup meilleur que son père. Son père est meilleur à la télé que sur la patinoire. Jake DeBrusk m'impressionne malgré son jeune âge. Mais les deux autres, Zboril, qui appartenait aux Sea Dogs de Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, et Svinichin, ben les deux n'ont toujours pas joué un seul match. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont en jouer un. Imagine-toi deux secondes si les Bruins avaient pris une chance avec Barzal.
Oui, puis même... Tu sais, derrière ce choix-là, ou ces trois choix-là des Bruins et Barzal, il y a Carl Connor qui est en train de faire sa niche à Winnipeg. C'est pas un gros joueur, mais c'est un très bon joueur.
C'est vrai.
Qu'on a moins connu parce que c'est un gars qui a joué plus dans la USHL. Puis même des gars, tu sais, comme Thomas Chabot et quelques autres qui ont été repêchés après. Puis dans les quatre dont tu parles, il y a évidemment Noah Yulson du Canadien qui a pas encore joué un match dans la Ligue nationale de hockey.
Ah, le monsieur Timmins. Un jour, il y a des amours pour lesquels j'ai de la misère à avoir une explication véritable. L'amour des partisans du Canadien envers Alexis Kovalev il y a quelques années, l'amour de Jeff Molson envers Marc Bergevin et l'amour de Marc Bergevin envers son recruteur-chef Trevor Timmins. Ça, c'est des amours, je dirais, éternels pour lesquels j'ai beaucoup de misère à m'expliquer le fond de ces amours-là.
Oh, puis écoute, ça s'applique dans le monde du sport, Dan, mais je pense que ça s'applique dans la société en général que des fois, l'amitié fait en sorte que tu vas garder quelqu'un en poste, puis que tu sais, il y a bien des gens autour qui se posent la question pourquoi là, cette personne-là est pas compétente dans ce qu'elle fait. Puis, comme je dis, c'est pas juste dans le monde du sport, c'est dans le monde en général. Puis tu t'arrives dans des situations où il y a des gars qui sont pas capables de faire leur travail, tu te poses un peu les questions pourquoi. Puis à un moment donné, je pense que ça arrive aussi à des entraîneurs. C'est-à-dire que les entraîneurs qui tombent en amour avec des joueurs, puis à un moment donné, tu te dis, écoute, tel ou tel joueur, tu sais, après 40 matchs, 3 buts, 8 passes, puis pourtant, il joue encore 17, 18, 20 minutes par match. Et on dirait qu'il y a des choses comme ça qui arrivent aussi avec des entraîneurs. Puis dans certaines situations, puis je pense que chez le Canadien présentement, c'est un peu le cas, avec les contrats qu'on a donnés aux personnes dirigeantes, puis le fait qu'il semble y avoir une amitié assez solide entre bien des gens dans cette organisation-là. Ça donne pas l'impression qu'il va avoir un grand ménage, que ce soit demain matin ou dans un an ou deux. On semble faire confiance aux personnes qui sont là, mais en tout cas, disons que depuis quelques années, on tire de la patte, puis il n'y a rien qui nous indique que les choses vont changer de bord. Là.
François, est-ce que ça va prendre Serge Chavard qui va dire à Jeff Molson, parce que tu sais qu'il a été quand même conseiller de M. Molson dans les dernières années pour... quelques décisions, entre autres l'embauche de Marc Bergevin, si ma mémoire ne fait pas défaut. Est-ce que ça va prendre Serge Chavard qui va débarquer un matin avec son café dans le bureau de Jeff Molson et il va dire à Jeff Molson, là, c'est-tu quoi, ça va super bien votre famille dans la bière, dans le hockey, ça va un peu moins bien. Moi, j'ai été directeur gérant pendant plusieurs années puis j'ai eu du succès. Là, il faut que tu tasses Bergevin. Puis pour les partisans, là, il faut que tu nommes Patrick Roy DG de cette équipe-là, puis là, vous allez relancer le club sur la bonne direction.
Moi, je vais être bien honnête, Dan, que ce soit Patrick Roy, que ce soit n'importe qui, tu mettrais à cet endroit-là. C'est impossible, je pense, de tourner ça sur un dissous.
Non, pas pour cette année.
Non,
mais sur 5-6 ans, François.
Oui, oui. Puis là, écoute, il faudrait que ce soit clair qu'on lance le message qu'on repart à zéro, puis qu'on décide d'échanger nos joueurs de valeur, nos vétérans, qu'on va chercher des recrues, des choix de repêchage, puis qu'on reconstruit. Ça, c'est une chose. Mais tu sais, je pense que si Serge Chavard a aidé au processus d'embauche de Marc Bergevin, je serais surpris quand même qu'on décide de dire qu'on n'a pas fait le bon choix. Parce que moi, je vais t'avouer une chose, Dan, quand il y a eu le processus d'embauche pour Marc Bergevin, je pense qu'on a très bien fait les choses chez le Canadien. Oui. On avait pris notre temps, on avait rencontré une tonne de candidats. On a trouvé un gars qui a grandi dans l'organisation des Blackhawks, qui gagnait des Coupes Stanley, qui est parfaitement bilingue, quelqu'un qui se présente bien, qui s'exprime bien, qui est assez sympathique.
Tout ce que tu dis est vrai. Moi, j'ai embarqué dans ce projet-là. J'ai donné une confiance, pas aveugle, mais j'étais sûr que c'était le gars qui allait transformer ça. Mais finalement, 5 ans et demi plus tard, François, l'équipe est moins bonne qu'elle était quand il est arrivé.
Sûr et certain. Puis écoute, on verra comment, tu sais, est-ce que Marc Bergevin est encore là pour 5, 10 années, c'est difficile à savoir à ce moment-ci. C'est sûr qu'au départ, il avait été très critiqué pour son choix d'entraîneur parce qu'il revenait avec avec un ancien, ça faisait déjà pas l'affaire des gens. Mais tu sais, je regardais dans l'ensemble du portrait, puis t'as pas le choix de te dire que présentement, t'es rendu à 5-6 ans de ton projet, il y a rien qui fonctionne. Tes meilleurs coups sont des transactions, tu sais, comme par exemple celle de Philippe Danault qui a à peu près rien coûté. Aller chercher Paul Byron au ballottage. Ce sont des choses comme ça qui font en sorte que tu dis ce sont tes meilleurs coups, mais ce ne sont pas des joueurs d'impact. Puis c'est pour ça qu'on se dit que quand tu prends plus de mauvaises que de bonnes décisions, c'est très rare que les choses vont tourner en ta faveur. Puis là, tu te retrouves dans une situation où tu te dis, si tu décides de faire le ménage chez le Canadien, moi, je pense qu'il faut que tu le fasses au grand complet. Puis ce serait de partir, je ne dis pas que tout le monde va sauter dans les bureaux, mais tu partirais de ton DG, ton dépisteur-chef, puis de bien des dépisteurs, puis des adjoints, puis des gens qui sont peut-être un peu trop en sécurité dans leur siège depuis plusieurs années. Mais celui qui aurait à s'embarquer là-dedans pour une reconstruction, c'est tout un job. Mais si un jour on décide de le faire, comme un peu les Maple Leafs l'ont fait dans les dernières années, je pense que quand tu le fais de façon claire, puis de dire aux gens que tu vas accepter de perdre 3 ou 4 ans pour avoir des meilleurs choix au pêchage, pour une meilleure équipe, je pense qu'à ce stade-ci, les gens accepteraient beaucoup mieux parce qu'on a de la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel quand tu regardes ce qui se passe, quand tu regardes ce qu'il y a dans l'organisation, puis tu sais ce qui s'en vient au niveau des clubs juniors ou peu importe des Européens que tu as. Le Canadien a à peu près pas d'espoir d'impact, donc ça va être difficile de retourner ça de bord. Là.
Je sais que John Tavares a été repêché en 2009, puis on est rendu en 2018. Il est pas à bout d'âge quand même, il doit avoir 27 ans. Je me questionnais hier dans mon émission, je disais, est-ce que le Canadien a plus de chances de gagner avec Price sans Tavares ou avec Tavares sans Price? Et moi, je suis convaincu que c'est avec Tavares sans Price, parce qu'il faut pas que tu aies le meilleur gardien de la Ligue pour gagner la Coupe. Il faut que tu aies le meilleur pendant 2 mois. On a eu plusieurs preuves de ça dans les dernières années. Un pour un, la transaction, demain matin, Tavares dit, moi, ça me tente plus de jouer à New York. Il accepte dans sa clause de non-échange, peu importe, il accepte d'ici le 26 février d'être échangé au Canadien. Il va vouloir 10 ou 11 millions. Tu prends le 10,5 que tu donnais à Price dans la transaction, il est rendu à New York, c'est plus toi qui le payes, tu le donnes à Tavares, puis tu repars sur une nouvelle base. Est-ce que toi, tu ferais ça?
Ben moi, je le ferais à la seule condition que tu es sûr que Tavares reste à long terme.
Oui, non, il signe. Il prend le contrat. Oh, il prend le contrat ou à peu près à Price, là.
Écoute, si c'était le cas, moi, je le ferais demain matin sans hésiter. Puis j'ai toujours dit, moi, j'aime Carey Price. Je pense que c'est un bon gardien de but. Je pense même peut-être que dans un autre environnement que Montréal, peut-être qu'il connaîtrait encore plus de succès. Mais je veux dire, un joueur de centre numéro 1 qui a 27 ans, même si tu lui donnais 7 ou 8 ans, il va avoir à mi-trentaine quand son contrat va finir. Je ferais ça demain matin. Puis, tu sais, Dan, honnêtement, si Tavares semble dire qu'il va se rendre jusqu'au 1er juillet, puis il va peut-être étudier les offres, même s'il veut rester à Long Island, il y a peut-être 15, 20 équipes qui vont mettre 11, 12, 13 millions sur la table, puis qui vont dire, gars, après ça, à partir de là, tu choisis où tu veux aller, puis il va avoir l'embarras du choix.
Il peut-tu faire comme Stamkos, François, puis rester là, finalement?
Oh, je suis convaincu que c'est l'option numéro 1, puis tu l'as probablement vu en entrevue hier à quelques endroits, puis je pense qu'il était très honnête, Tavares, quand il disait c'est son choix numéro 1, puis tu sais, je l'ai déjà mentionné, le Doug White et son entraîneur, c'est là où il restait quand il est arrivé à Long Island. Tu regardes l'éclosion de... Tu as parlé tantôt de Matthew Barzal. Tu sais, l'arrivée d'Eberle, puis le fait que lui, avec Bailey puis Lee, évidemment, Bailey étant blessé, oui. Mais tu sais, c'est un trio qui a été redoutable depuis le début de la saison. Les Islanders sont en course pour les séries, mais ils peuvent se trouver un gardien de but numéro 1. Je pense que c'est un club qui est quand même intéressant sans être une superpuissance. Donc, moi, je pense que si Tavares est bien, à partir du moment où tu dis, bon, il y a, je sais pas, 22 équipes qui te mettent 12 millions sur la table, tu vas rapidement tomber à une liste de 5 qui sont probablement des équipes compétitives. Peut-être Toronto, parce que c'est un gars qui est originaire de l'Ontario, puis évidemment, Long Island serait dans le lot, mais ce serait difficile de penser que John Tavares aurait de l'intérêt à venir à Montréal dans la situation actuelle. Puis évidemment, Dan, si tu donnais, je sais pas, 12 ou 13 millions à Tavares, ça ferait aucun sens parce que tu te retrouvais avec Price à 10,5 puis les...
Non, pas les deux ensemble. Non, c'est ça.
Tu aurais à peu près presque 25 millions à deux joueurs. Mais dis-moi, avec des Petrie puis des Hausner et compagnie, ça ferait pas de sens.
C'est ça. Dis-moi, donc, Mathieu Barzal, pour la décision du futur de Tavares, c'est plus important encore que le nouvel amphithéâtre?
C'est un bon point, Dan, mais je pense que ça joue pas dans les mêmes plates-bandes, mais les deux ont un effet important. Parce que, tu sais, soyons honnêtes, là, de ce qu'on avait vu à Brooklyn, là où jouent les Nets, tu sais, t'as des endroits dans l'aréna où les gens voient même pas le filet, tellement c'est mal fait, les assistances sont pas très bonnes, le feeling était pas très bon. Mais c'est sûr que quand t'annonces à un joueur qui joue là depuis le début de sa carrière que finalement, l'équipe s'en va nulle part, puis que, tu sais, même si c'était pas très très loin d'où ce qu'on était, ça changeait quand même la vie puis le quotidien de ces joueurs-là. Donc je pense que ça aussi, Dan, c'est très 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 important. Tu sais, combien de joueurs, Dan, à l'époque, avec les expos, avec les rumeurs de déménagement, il voulait pas signer, puis il voulait pas rester là. Tu savais jamais si tu allais te ramasser à jouer des matchs à Porto Rico ou à déménager à tel ou tel endroit. Je pense que la stabilité puis le fait que les Islanders ont confirmé qu'ils allaient retourner à Long Island, je pense que ça aussi, c'est très important dans les décisions que vont prendre des gars comme John Tavares.
OK, deux questions rapides en rafale pour toi avant de te laisser. Quel entraîneur a le plus de chances de perdre sa job si son équipe perd 6 matchs sur 7? Kenville à Chicago ou Vigneault avec les Rangers?
Vigneault avec les Rangers, je suis convaincu. Écoute, Joel Quenneville, je pense qu'il est encore bien en selle, puis je comprends que les Blackhawks ont une saison difficile. Là, en plus, avec la blessure à Crawford, ça complique les choses, même si quand même les gars qui sont là font un travail respectable. Mais, tu sais, Alain Vigneault, rappelle-toi, Dan, début de la saison, quand ça a commencé sur le pied gauche, on parlait déjà de congédiement, puis à un moment donné, il en a enfilé quoi 6, 7, 8 de suite, puis les Rangers se sont placés. Mais c'est sûr qu'il y a de la pression sur Alain Vigneault pour au moins faire les séries. Je suis convaincu qu'il est plus en danger que Joanne Kelville dans les circonstances.
OK. Laquelle des deux équipes suivantes a le moins d'avenir dans la Ligue nationale de hockey? Buffalo ou Arizona?
Là, tu me parles au niveau hockey?
Oui.
C'est une bonne question. Très bonne question. Mais j'ai pas le choix de dire les Sabres de Buffalo ont un peu moins d'avenir. J'en ai glissé un mot il y a quelques semaines en disant dans les équipes, moi, qui me décevaient énormément, les Sabres faisaient partie de mes réponses parce que ils sont avant-derniers dans la Ligue, parce que, bon, évidemment, Jack Eichel est un très bon joueur de hockey, mais on n'a pas eu McDavid, on a eu Eichel. Il y a plusieurs contrats qui sont en train de nous hanter, puis des gars comme Okposo et tout ça. Evander Kane est en train de mettre la chicane comme il a fait à bien des endroits. Robin Lehner, on n'est pas sûr que ça va être un gardien numéro un dans la Ligue nationale. Je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, en Arizona, Dan, il y a beaucoup d'espoir. On a des très, très bons jeunes. On a, je pense, quand même fait un bon travail de recrutement. Mais à un moment donné, il faut que ces jeunes-là maturent et que tu sois capable de les garder. Puis un peu comme je faisais référence aux expos tantôt. Les expos, à un moment donné, quand tous tes jeunes arrivaient en même temps puis que tu devais les payer très bientôt, il va falloir que tu gagnes. Donc, si on est pour décider, par exemple, d'échanger Oliver avec Mann Larson, on semblait dire qu'on demande la lune pour, puis c'est tout à fait normal. Oui. On va peut-être redescendre un peu dans le processus, puis ça peut prendre encore des années. Mais c'est sûr qu'au niveau talent brut, je pense que je serais plus à l'aise comme DG avec Arizona parce qu'on a vraiment eu des très bons choix repêchage. On a fait des bons choix, on a pris des bonnes décisions. Mais comme je te dis, à un moment donné, il va falloir que ce groupe-là mature ensemble pour quelques années pour qu'on puisse gagner des matchs et espérer participer aux séries.
Parfait. Merci beaucoup, François.
Salut, Dan. Bonne soirée.
Bonne soirée. François Paquette, chroniqueur sportif avec qui on parle chaque semaine dans mon émission. Sachez